Le thème du message ce soir sera « Sois le gardien de ton frère ». Sois le gardien de ton frère. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole qui est la vie et la vérité, ta parole qui est pour nous comme une lumière sur notre sentier. Seigneur, ce soir encore, nous prions afin que par ton Saint-Esprit, tu nous éclaires, que tu nous enseignes. Seigneur, nous te prions de renouveler notre intelligence afin que nous puissions comprendre, saisir ce que tu veux nous dire. À toi soit la gloire. Amen. Donc nous allons lire dans le livre de la Genèse, chapitre 4, versets 8 et 9. Genèse, chapitre 4, versets 8 et 9. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ? Suis-je le gardien de mon frère ?» Caïn, on le sait, n'était pas le gardien de son frère. Il était plutôt ennemi et même meurtrier de son frère. Et Dieu lui demande, « Où est ton frère ?» Dieu pose une question à Caïn et Caïn va répondre par une autre question. Dieu lui pose une question, il répond par une autre question. Il aurait su où était son frère parce qu'il ne l'aurait pas tué. Et Caïn aurait dû être le gardien de son frère. Qu'est-ce qu'un gardien et qu'est-ce qu'un frère ? Ici, le gardien, c'est le mot hébreu shamar, S-H-A-M-A-R, shamar, qui a plusieurs significations. Ça voudrait dire celui qui a la charge de l'autre, celui qui doit veiller sur l'autre, celui qui doit protéger l'autre, celui qui doit observer l'autre, dans une connotation, on va dire, bienveillante. Mais ce mot peut avoir aussi une autre signification, moins positive. Ça peut être le gardien au sens de celui qui lie l'autre, celui qui retient l'autre, celui qui contient l'autre. Donc, le gardien, c'est le shamar. Et le frère, qu'est-ce que le frère ? Ici, c'est le mot hébreu ak, A-C-H, qui est utilisé. Donc là aussi, plusieurs significations. La première, c'est le frère de sang. Mais plus largement, dans la langue hébraïque, il y a d'autres significations. Ça peuvent être des personnes d'une même famille, des personnes d'une même assemblée, des personnes d'une même tribu, des personnes dans un sens de réciprocité ou dans un sens de ressemblance. Donc, on pourrait reprendre un terme que Jésus a utilisé de façon parfaite, bien sûr, c'est le mot « prochain ». Mon frère, c'est mon prochain. Ce n'est pas que mon frère de sang, mais mon frère, c'est mon prochain. C'est un membre de ma famille, c'est un ami, c'est un voisin, c'est un collègue, c'est un frère en Christ, une sœur en Christ. C'est mon prochain. C'est en fait toute personne que Dieu place un jour sur ma route. Toute personne que Dieu me donne de rencontrer ou qu'il a placée près de moi. Donc être le gardien de son frère, ça pourrait vouloir dire veiller sur des personnes que Dieu a placées dans mon entourage, dans mes connaissances, dans mon quotidien. Et j'aurai la charge de veiller sur ces personnes-là, d'être bienveillant envers ces personnes-là, autant d'un point de vue de leur santé physique que de leur santé morale, que bien sûr de leur santé spirituelle. Et je crois que c'est un rôle que Dieu nous a donné, Jésus a beaucoup insisté là-dessus, veillons les uns sur les autres, aimons-nous les uns les autres. C'est un message que Jésus a dit à plusieurs reprises. Nous devons nous attendre à nous aimer les uns les autres, nous devons nous attendre à veiller les uns sur les autres, à être les uns pour les autres des gardiens ou des gardiennes. Et je m'attends à ce que mon frère ou ma sœur veille sur moi comme mon frère ou ma sœur doit s'attendre à ce que je veille sur lui ou sur elle. Être le gardien de son frère, ça implique une dimension de bienveillance. Et donc dans la bienveillance, on va retrouver beaucoup de choses. L'amour, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Il y a le témoignage, il y a le respect, il y a le partage, il y a la générosité. Il y a beaucoup de choses dans le fait d'être le gardien de son frère, mais surtout, le plus important, c'est l'amour. Et c'est de faire les choses avec bienveillance, mais c'est aussi de faire les choses de façon généreuse, sans rien attendre en retour. Si je suis le gardien de mon frère, je vais agir en sa faveur, sans rien attendre en retour, tout simplement parce que quand je sers mon prochain, en fait, c'est Dieu que je sers. Donc, à l'inverse du gardien de ses frères, il y a un autre gardien qui est, je le disais, avec une connotation plus négative. C'est le gardien qui cherche à contrôler l'autre. Et ça, c'est un gardien qui n'est pas la définition du gardien, ou en tout cas celle que Jésus a préconisée. Car quand nous voulons contrôler l'autre, quand nous voulons maîtriser l'autre, nous cherchons à prendre la place de Dieu. Car Dieu est le seul à avoir le contrôle et la main mise sur nos vies. Nous ne devons pas agir de la sorte, mais Dieu veut que nous cherchions à devenir un gardien pour notre prochain, un gardien pour notre frère. Mais tout en faisant cela, que nous restions attachés à ses valeurs, que nous restions attachés à son attitude, à son caractère. Et je vais citer Éphésiens 5.1 qui nous dit, Éphésiens 5.1, « Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu, pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Veillons les uns sur les autres, soyons le gardien de notre prochain, de notre frère, en étant des imitateurs de Dieu à l'exemple de Christ. Veiller sur son frère, c'est agir envers lui comme nous voudrions que lui agisse envers nous. Ça aussi, Jésus nous l'a dit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. Luc 6, 31. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. Jésus nous a donc commandé de nous aimer les uns les autres. C'est le message de l'Évangile. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et juste après, viens, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il nous a enseigné à être le gardien de notre prochain, à être le gardien de notre frère. La Bible nous appelle à deux choses importantes à appliquer pour être un gardien agréable à Dieu. Le livre de l'Épître aux Philippiens nous donne deux versets en ce sens. Philippiens 1, 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Et un peu plus loin, Philippiens 2, 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Si nous avons en nous les sentiments qui étaient en Christ, et si nous nous comportons d'une manière digne de l'évangile, ne nous inquiétons pas, nous serons de bons prochain pour notre frère, pour notre sœur. Nous serons de bons gardiens pour nos frères, pour nos sœurs. En tout cas, nous servirons Dieu d'une manière qui lui est agréable. Être le gardien de notre frère, de notre sœur, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut nous sauver, mais il attend aussi que nous soyons des exemples, des témoins autour de nous. Et je voudrais partager ce soir avec vous l'exemple d'un homme dans la Bible qui a su se comporter comme un véritable gardien pour ses frères. Cet homme, c'est le prophète Daniel, qui a véritablement été ce gardien pour ses trois frères. Et nous allons voir au travers de cinq attitudes ou qualités de Daniel, ce qui a fait de lui un gardien qui a plu à Dieu. La première attitude, c'est que le gardien prend position pour Dieu. Daniel avait pris position pour Dieu. On va lire dans le premier chapitre du livre de Daniel, à partir du verset 8 et suivant. Daniel, chapitre 1, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Verset 11. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, Anania, Michaël et Azaria, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Un peu plus loin au verset 15. Au bout de 10 jours, ils avaient le meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au verset 19, le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun, comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Amen. Daniel signifie « Dieu est mon juge ». Daniel était un jeune homme, lorsqu'il a été déporté à Babylone, il était issu probablement d'une famille royale ou d'une famille noble de Juda, et il avait été déporté parmi d'autres de Jérusalem jusqu'à Babylone. Et il avait été déporté à Babylone pour servir dans le palais du roi. Et parmi les autres déportés qui l'accompagnaient, il y avait notamment trois jeunes hommes comme lui, dont il était plus proche. Ils sont cités ici, Anania, Michaël et Azaria. Imaginez la situation dans laquelle se trouvaient ces quatre jeunes hommes. Ils avaient été de force arrachés à leur famille, à leur ville, à leur patrie. Et ils avaient été arrachés de force pour aller dans un pays lointain, un pays étranger, dans lequel ils devaient servir un roi étranger. Et alors qu'ils avaient été enseignés dans la crainte et dans l'amour de Dieu, ils se retrouvaient dans une situation à Babylone, dans un environnement qui était inverse, qui était étranger, un environnement qui était idolâtre. Et ils avaient été amenés à la cour du roi pour servir. Et pour servir le roi, il fallait ressembler au roi, il fallait accepter les coutumes du roi, il fallait accepter l'enseignement du roi, il fallait accepter la nourriture du roi. Mais tout cela était en contradiction avec tout ce qu'ils avaient reçu jusqu'à présent, avec tout l'enseignement, tout ce qu'ils avaient reçu, tous les principes de Dieu qu'ils avaient reçus depuis leur enfance. Et donc, comme l'enseignement, on allait leur servir une nourriture qui était celle que l'on servait au roi. Une nourriture et un vin qui probablement avaient été donnés en sacrifice aux idoles. Et donc manger cette nourriture aurait été contraire à tout l'enseignement et à tout l'attachement à Dieu que Daniel pouvait avoir. Comme boire le vin aurait pu obscurcir l'esprit de Daniel à cause des effets de l'alcool. Alors Daniel a résolu, ce que nous dit la parole, Daniel a résolu de ne pas se souiller. Il a refusé tout compromis. Il a refusé toute concession. Pourquoi ? Parce qu'il voulait respecter ses convictions et il voulait respecter son engagement et son amour pour Dieu. Ça peut paraître facile comme ça quand on le lit, mais quand on est jeune, qu'on est loin de ses parents, prendre une telle position alors que ça peut avoir des conséquences sur sa propre vie, montrer l'attachement que Daniel avait pour Dieu. Au départ, quand on lit le livre de Daniel, on voit que Daniel, il est juste un parmi les quatre. Il n'est pas plus que les trois autres. Il n'y a rien qui le différencie vraiment des autres. Il est cité comme les autres. Il fait partie des autres. Mais très vite, il va se démarquer. Il va se démarquer comment ? Par sa prise de position et par sa fidélité à Dieu. Malgré son jeune âge, malgré que ses parents n'étaient pas près de lui pour le conseiller, pour le guider dans ses choix, dans ses décisions, malgré qu'en refusant, il risquait sa vie, il a pris position. Et Dieu a aimé et Dieu a approuvé sa prise de position, puisqu'au verset 9, Daniel 1:9, il est dit « Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. » Dieu a aimé la prise de position de Daniel. Daniel a fait le premier pas. Il a pris une position ferme pour Dieu. Daniel n'agissait pas par rébellion envers le roi. Daniel agissait par fidélité et par amour pour Dieu. Et à partir du moment où Daniel a pris position, à partir du moment où il a fait le premier pas, Dieu a fait les pas suivants, puisque le chef des eunuques a autorisé Daniel à manger des légumes, mais non seulement Daniel, mais aussi ses trois amis, mais aussi, au bout de 10 jours, Dieu a permis qu'il soit bien portant. Et en plus, au verset 17, Daniel 1, 17, il est dit que Dieu accorda à ces quatre jeunes gens la science, l'intelligence et la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Donc lorsque Daniel a fait le premier pas, lorsque Daniel a pris position pour Dieu, en fait, il s'est démarqué et il est devenu le gardien de ses frères. C'est à ce moment-là qu'il est devenu le gardien de ses frères. Et Dieu a permis ensuite des circonstances favorables. Dieu a permis que les quatre hommes soient bénis dans leur santé. Il leur a accordé des qualités d'excellence pour qu'ils puissent servir dans la cour du roi, tout en respectant les principes de Dieu, tout en restant fidèles à Dieu. Et Daniel a eu en plus un bonus puisqu'il est dit « Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. » Il a eu les mêmes bénédictions que les autres, mais en plus il expliquait les visions et les songes. Et la conclusion est apportée au verset 19, Daniel 1, 19. « Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun, comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. » en se positionnant pour Dieu dans un contexte hostile à Dieu, le gardien de ses frères plaît à Dieu. Il se démarque et il plaît à Dieu. Et Dieu le bénit. Et cette bénédiction ruisselle du gardien de ses frères vers ses prochains. Donc, quand le gardien prend position pour Dieu, il bénit ses frères. La deuxième attitude de Daniel, c'est qu'il était rempli de foi et il était courageux. Le gardien est rempli de foi et il est courageux. Le roi avait eu un songe et la parole dit que son esprit était agité. Il avait besoin de savoir quelle était la signification de ce songe. Alors il a appelé tous les sages de sa cour, parmi eux des conseillers, des magiciens, des astrologues, parce qu'il y avait beaucoup d'occultisme autour du roi. Il les a tous appelés, sauf Daniel. Et il leur a dit, vous allez me dire ce que j'ai rêvé. Eux ne le savaient pas, mais il leur a dit, vous allez me dire de quoi j'ai rêvé, et en plus, vous allez me donner la signification. Et même les occultistes disaient, sans l'aide de Dieu, nous ne pouvons le dire. Ils avaient conscience de ça. Et le roi a dit, si vous n'êtes pas capable de me le dire, je vous tuerai tous. Il avait donc menacé les sages de les tuer, non seulement les sages, mais aussi Daniel, bien que Daniel n'était pas présent lorsqu'il a fait cette demande. On lit dans Daniel chapitre 2, versets 14 et 16. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjok, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjok, commandant du roi, « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Arjok exposa la chose à Daniel, et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Le roi avait demandé à Arjok, le chef de ses gardes, de mettre à mort les sages de Babylone. Et là, on voit le caractère courageux de Daniel. Daniel qui prend confiance, Daniel qui sait que Dieu est avec lui, et Daniel qui sait qu'il est le gardien de ses frères. Il avance vers Arjok, et la parole nous dit que Arjok était sorti, et qu'il était sorti pour mettre à mort les sages. Donc, cette mise à mort avait commencé. Daniel est allé vers celui qui sortait l'épée à la main pour le tuer. Il allait au-devant de son bourreau, il allait au-devant de son meurtrier. Et face à une telle situation, beaucoup auraient pris la fuite. Mais Daniel était plein de courage. Daniel était un leader spirituel qui avait placé sa confiance en Dieu et qui obéissait à Dieu. Et même si la situation était mal embarquée, même si tout paraissait très incertain et que la mort était près de lui, Daniel a obéi à Dieu et il va vers l'homme qui était chargé de le tuer. Et que fait Daniel ? La parole nous dit qu'il a parlé d'une manière prudente et sensée. Plein de confiance en Dieu, plein de foi, Daniel se présente devant le garde du roi et lui dit, d'une manière prudente et sensée, qu'il veut rencontrer le roi. Et là, il va trouver les mots et obtenir la permission de rencontrer le roi. Alors que le chef des gardes était là pour le tuer, les rôles sont inversés, puisque la parole nous dit que Arjok va exposer la situation à Daniel. Vous imaginez ? Il allait vers son bourreau qui était prêt à le tuer, et là le bourreau va lui exposer la situation. Dieu avait permis que les circonstances soient rétablies, que Daniel puisse accéder au trône du roi pour présenter sa requête. Daniel avait fait un pas en avant décisif. Il s'est comporté courageusement et encore une fois, cela a plu à Dieu. Daniel a fait le premier pas, Dieu a fait les pas suivantes. Il a arrêté Arjok dans sa série de mises à mort et il a permis que Daniel accède au roi. Dieu était avec Daniel, mais c'est vrai pour nous aussi, Dieu est avec nous. Quand on est face à des circonstances difficiles, même si tout paraît très mal embarqué, même si la situation paraît ne tenir qu'à un fil, cela veut dire que Dieu est aussi avec nous. Et même si nous avons dans notre vie des situations, si nous connaissons des situations critiques, gardons foi en Dieu. Élie était face à 450 prophètes de Baal, autant dire qu'il risquait sa vie, et il a cru que Dieu allait envoyer le feu sur l'Holocauste. David est allé tout seul face à Goliath. Je pense que pas grand monde ne donnait cher de sa peau. Mais David avançait plein de confiance en Dieu. Et il savait que Dieu était avec lui. Donc, qui que nous soyons, quel que soit notre problème, que nous soyons grands, petits, Dieu agira pour nous. Si il y a une condition, si il est le premier dans notre vie, et si nous sommes capables de faire un pas de foi, le premier pas, si nous faisons le premier pas de foi, un pas rempli de courage, Dieu fera les autres pas à notre côté. Et face au roi, Daniel a fait preuve d'une maîtrise de lui, avec une conduite courageuse, mais on voit qu'il a parlé de manière calme, il a su parler au roi, il a parlé de façon responsable et équilibrée. Être courageux, ce n'est pas faire n'importe quoi, ce n'est pas prendre des risques inconsidérés, mais c'est faire confiance à Dieu et c'est agir conformément à la volonté de Dieu. Et tout cela a plu à Dieu et Dieu a permis que la demande de Daniel soit accordée. Et puis Daniel rentrera chez lui, on va en parler. Dieu lui donnera la vision, l'explication du songe du roi et Daniel retournera vers le roi donner l'explication. Donc quand le gardien place sa confiance en Dieu, il est rempli de foi, il est rempli de courage. La troisième attitude de Daniel, c'est qu'il a enseigné et il a guidé ses frères. Le gardien, c'est aussi celui qui enseigne et qui guide ses frères. Daniel chapitre 2, versets 16 à 19. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel agit encore en tant que gardien de ses frères. Il y a trois éléments dans ce texte que nous avons lu. Tout d'abord, au verset 17, il est dit que Daniel a instruit ses amis. Daniel a informé, Daniel a enseigné ses amis. La première action de Daniel quand il revient dans sa maison, c'est de donner l'information, c'est d'instruire, c'est d'enseigner. Et il y a deux dimensions ici. La dimension de l'instruction, de l'enseignement, mais aussi celle de la communion fraternelle. Je donne aux autres, je transmets aux autres ce que j'ai reçu. Daniel n'était pas un gardien qui prenait tout pour lui, qui prenait tout ce qu'il avait à prendre pour lui, mais il était plus altruiste que cela. Il n'agissait pas comme un leader qui avait la mainmise sur ses amis, mais il avait compris que la volonté de Dieu était dans le partage et dans la communion fraternelle. Dieu ne veut pas que nous portions, nous, tout seuls, nos soucis. Dieu ne veut pas que, même si nous avons des responsabilités, que ce soit dans la famille, au travail, dans l'église, Dieu ne veut pas que nous portions tout cela tout seul. Il veut que nous partagions nos soucis, nos problèmes, nos difficultés, comme lui est à nos côtés. Et il veut que nous le partagions avec celles et ceux qui sont autour de nous. Et il y a une onction particulière qui est dans la communion fraternelle. Vous connaissez ce qu'a dit Jésus, Matthieu chapitre 18, versets 19 et 20. « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Car là, deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Il y a une puissance dans la prière collective. Il y a une présence de Jésus lorsque nous sommes rassemblés en son nom et que nous prions ensemble. Car Jésus est présent et ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence car il est source de vie, il est source de foi, il est source de force, il est source de grâce, il est source de paix. Amen. Au verset 18, un autre élément important. Daniel engagea ses amis à implorer la miséricorde du Dieu des cieux. Après avoir partagé son sujet de prière, il exhorte ses frères à prier avec lui. Là aussi, c'est la marque du gardien. Il engage les autres, il exhorte les autres, il encourage les autres, il montre la voie aux autres, il passe en premier, il conduit les autres à tourner les yeux vers Dieu. Et je voudrais dire à chacune et chacun présent ici ce soir que vous êtes toutes et tous un gardien ou une gardienne là où Dieu vous a placé, que ce soit dans votre famille, auprès de votre conjoint, auprès de vos enfants, auprès de vos amis, auprès de vos voisins, dans l'église, vous êtes des gardiens et des gardiennes. Et à ce titre, vous aussi, nous devons passer les premiers. Nous devons montrer la voie. Nous devons être les premiers à prier. Nous devons être les premiers à louer. Nous devons être les premiers à battre des mains. Nous devons être les premiers à chanter. Nous devons montrer la voie. Comme ici, Daniel a montré la voie à ses frères. Il a engagé les autres. C'est ce que dit la parole. Il les a engagés. Il les a engagés. Et ici, Dieu a répondu à la prière collective, puisqu'après avoir prié tous ensemble pour avoir la traduction du songe, Dieu a béni, Dieu a répondu. Au verset 19, une autre attitude de Daniel, très importante, ce verset est très important. Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel avait eu la traduction du songe, Dieu lui avait révélé. Et la première chose que fait Daniel, sa première pensée après avoir reçu cette révélation, c'est quoi ? C'est rendre grâce à Dieu. Il a béni Dieu pour la signification du songe. Daniel bénit Dieu pour sa bonté, pour sa puissance. C'est comme si un homme cueillait un arbre sur un fruit, mais avant de manger le fruit, il plante une graine pour qu'un autre arbre ou une autre plante pousse, et alors elle donnera un nouveau fruit. Rendons grâce à Dieu. Parce que quand nous rendons grâce à Dieu, ce n'est pas seulement que nous faisons preuve de gratitude. Oui, c'est vrai, nous faisons preuve de gratitude. Mais l'action de grâce, c'est aussi un acte de foi. C'est aussi dire à Dieu, oui, je m'attends à ce que la prochaine fois, quand je vais revenir à cet arbre, je vais retrouver un fruit. Je sais que quand je vais revenir, Seigneur, là où tu as répondu la fois dernière, je m'attends aussi que la fois prochaine, tu répondes à ma demande, tu répondes à ma prière. Je m'attends à ce que tu sois là. Remercier Dieu, c'est un acte de foi qui lui plaît. C'est pas juste dire merci. C'est dire merci, Seigneur, oui, je crois en toi et je crois que tu ne m'abandonneras pas. Et c'est aussi parce que nous l'aimons sincèrement et humblement que Dieu, je le crois, fait de nous des gardiens pour nos frères. La quatrième attitude de Daniel, c'est qu'il était généreux. C'était un gardien généreux. Nous pouvons le lire dans Daniel, chapitre 2, versets 48 et 49. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents, puisque Daniel avait donné la traduction du songe au roi. Et le roi lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego, c'est-à-dire ses trois amis. Et Daniel était à la cour du roi. Donc, après avoir révélé le songe au roi, Daniel reçoit une élévation. Daniel reçoit une grande récompense. Il prend le commandement de la province de Babylone. C'était une très grande responsabilité. Quelle gloire ! Lui, le déporté, il était arrivé à Babylone sans rien. Et le voici, commandant de la province de Babylone. Quelle élévation ! Mais dans sa réussite, dans son élévation, Daniel prie le roi de confier l'intendance de Babylone à ses trois amis. Et c'est une marque de générosité de Daniel. Oui, il est élevé. Oui, il est récompensé par le roi. Mais il n'a pas oublié ses trois frères. Et en tant que gardien de ses frères, il est bienveillant et il souhaite leur élévation. Et là aussi, je crois que pour nous, il y a un message. Si nous aimons notre prochain, quel qu'il soit, et si nous pouvons faire quelque chose pour lui, si nous pouvons faire quelque chose en sa faveur, si nous pouvons faire quelque chose pour notre prochain qui permet son élévation, qui permet son avancement, qui permet sa promotion, nous devons le faire. Daniel avait une relation privilégiée avec le roi, puisqu'il avait donné la traduction du songe, et il n'a pas hésité. Il a prié le roi de donner des responsabilités à ses trois amis. Il n'a pas menti, il n'a pas vanté ses amis, il a juste prié. C'est-à-dire qu'il a proposé cette idée au roi, il a soumis cette idée au roi. Pourtant, ses trois amis, quand on lit l'histoire de Daniel, ils n'avaient rien fait de particulier. Et on va dire même que c'était plutôt des suiveurs. Puisque quand Daniel prend position en disant « Je ne me souillerai pas avec les mets du roi », eux n'avaient pas pris position, mais ils ont suivi Daniel. Et ils ont été bénis. Dieu les a bénis comme Daniel, en leur accordant la science, l'intelligence, la sagesse. Face à la menace du roi, ils suivent Daniel qui les engage à prier. Ils prient avec lui, mais c'est bien Daniel qui les engage à prier. Ils l'ont suivi. Et alors, au final, le roi leur donne l'intendance de la province. Donc Daniel était le gardien de ses frères, mais non pas pour les maîtriser, non pas pour les étouffer, non pas pour les exploiter, mais il agissait par amour. Et il agissait envers eux par amour et parce qu'il aimait Dieu avant de les aimer à eux. Jamais Daniel n'a dit à ses amis, je vous ai permis d'accéder à cette responsabilité, donc vous me devez ceci ou vous me devez cela. Parce qu'il agissait par amour. Il agissait sans rien attendre en retour de ses amis. Et comme Dieu lui a donné la capacité, on l'a dit tout à l'heure, il lui avait donné un petit bonus, un grand bonus même, la capacité d'interpréter les songes. Ici aussi, on voit que Daniel reçoit un autre bonus, un clin d'œil de Dieu, puisqu'il est dit que Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province à ses amis, et Daniel était à la cour du roi. Daniel n'avait pas cherché cette élévation, mais parce que Daniel aimait ses amis, parce qu'il était un véritable gardien pour ses frères, Dieu lui a donné une élévation particulière. Et la cinquième attitude de Daniel, je crois, et c'est quelque part le secret de Daniel, pourquoi il était un si bon gardien pour ses frères, c'est parce que Daniel était consacré à Dieu. Si Daniel a pu être ce gardien pour ses frères, c'est parce qu'il avait une vie liée à Dieu. Il avait une intimité profonde, il avait une consécration quotidienne pour Dieu. On peut le lire dans Daniel chapitre 6, verset 10. « Trois fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. » Et puis Daniel chapitre 6, verset 20, c'est le roi qui parle, il prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance. » Même le roi, qui était un païen, avait remarqué que Daniel était serviteur du Dieu vivant et qu'il était persévérant dans son service pour Dieu. Daniel n'a jamais cherché à être plus grand que ses frères, mais il agissait envers eux avec bienveillance. Il n'a jamais cherché à les dominer. Au contraire, il voulait les élever, il voulait les rapprocher de Dieu. Il avait reçu de Dieu toutes les qualités nécessaires pour le faire. Il a pris position pour Dieu, il a exhorté ses frères à l'imiter, il s'est montré courageux afin de protéger ses frères. Il a été pour eux un enseignant, il a été pour eux un guide spirituel, il a été généreux envers eux, il ne les a pas oubliés. Et la suite du livre de Daniel nous montre les fruits de cela. Parce que quand nous sommes gardiens de nos frères, de nos sœurs, de notre prochain, ce n'est pas juste agir en leur faveur. Je le disais tout à l'heure, c'est d'abord servir Dieu, agir pour Dieu. Parce que si nous sommes des gardiens de notre prochain, de notre frère, de notre sœur, ce n'est pas pour nous servir nous-mêmes, mais c'est pour servir Dieu. Et par la suite, le livre de Daniel nous raconte comment ces trois frères, Shadrach, Meshach et Abednego, auront grandi. Et ils auront retenu les enseignements de Daniel. Ils vont être conduits, vous connaissez l'histoire, avec le reste du peuple devant une statue en or. Et on va leur demander de s'agenouiller. Et comme Daniel, ils vont prendre position pour Dieu. Ils vont refuser de s'agenouiller devant la statue en or. Et face à la fournaise, parce qu'on va vouloir les jeter dans le feu, face à la mort, ils vont être courageux. Ils vont rester fidèles à Dieu jusqu'au bout. Et on les jettera dans le feu. Et par leur témoignage, parce que tout le peuple était rassemblé, ils ont glorifié Dieu. Devant tout le peuple, ils ont été des témoins pour tout le peuple et des guides. Et après cela, le livre de Daniel nous dit que Dieu les a élevés et la parole dit qu'ils ont prospéré. C'était là le véritable but de Daniel, qui était le gardien de ses frères. C'est que ces trois hommes avaient besoin d'un grand frère. Ils avaient besoin d'un gardien. Ils avaient besoin de quelqu'un qui les amène vers Dieu. Et c'était leur tour. Et ils ont imité Daniel. Et très certainement, là le livre de Daniel ne nous le dit pas, mais très certainement que leur témoignage a amené d'autres personnes à se tourner vers Dieu. Donc frères, sœurs, soyons des gardiens pour notre prochain, famille, amis, voisins, collègues, frères ou sœurs en Christ. Soyons des gardiens les uns pour les autres, c'est la volonté de Dieu. Jésus nous a enseigné que chaque fois que nous faisons, ou que nous aidons, ou que nous encourageons, ou que nous aimons un plus petit que nous, nous le faisons pour lui. Alors prions pour être ce gardien, pour être cette gardienne, celui qui par sa conduite amène les autres à se tourner vers Dieu, que Dieu vous comble de ses grâces. Amen. Père éternel, au nom de Jésus, je prie pour que ta grâce et ta faveur soient sur nous, afin qu'à l'image de Daniel, nous soyons résolus à prendre position pour toi, que nous soyons remplis de foi, remplis de courage, que nous soyons remplis de zèle pour ta maison, que nous soyons remplis d'amour pour notre prochain, que par notre témoignage, par notre attitude, nous te servions dans un état d'esprit de consécration, d'intimité avec toi. Seigneur, que par tout cela, des âmes nouvelles se tournent vers toi pour ta gloire seule. Merci Seigneur d'avoir fait de nous tes serviteurs. Nous plaçons entre tes mains nos vies, Seigneur, afin que tu nous utilises là où tu nous as placés, auprès de notre prochain. À toi seul soit la gloire. Amen.